Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort. Cette semaine, nous allons nous consacrer au plus grand joueur étranger de l'histoire de la Ligue 1. Pour évoquer ce vaste sujet, avec moi Martin Mosnier, Cyril Morin, Laurent Vergne et Glenn Cellier, journaliste à la rédaction d'Eurosport. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Bonjour à tous. Salut Adrien.
Cet épisode et cette émission est à retrouver en intégralité en podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser des commentaires. On va commencer messieurs, vous allez nous dire en un mot et une petite phrase qui vous avez choisi de défendre et pourquoi. Martin, à toi l'honneur.
Moi, j'ai décidé de défendre Salif Keita, donc l'attaquant des Verts, parce qu'en 3 ans, il est passé du coffre d'une voiture au Ballon d'Or.
Cyril Morin.
Moi, j'ai décidé de défendre Juninho parce que c'est le joueur marquant d'une des plus grandes équipes de l'histoire de la Ligue 1, à savoir l'Olympique Lyonnais.
Laurent Vergne.
Alors moi, ce sera Safet Susic parce que je suis vieux et que j'aime les artistes. Et les artistes, si possible, qui ont marqué tout, vraiment l'histoire d'un club et de toute une époque.
Et enfin, Glenn, un autre artiste pour toi ?
Moi, j'ai choisi un joueur qui est resté 4 ans dans le championnat de France et qui a marché sur la Ligue 1 littéralement. Évidemment, c'est Zlatan Ibrahimovic.
Très bien, messieurs. On va commencer par… On a choisi de commencer dans l'ordre chronologique. On va commencer par Salif Keita, du coup, Martin, l'attaquant des Verts qui a brillé du côté de Geoffroy Guichard. C'est quelqu'un qui t'a marqué, toi, Martin.
Alors, qui m'a marqué, je ne l'ai pas vu jouer, donc c'est compliqué. Après, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club français qui a gagné le plus de titres en Ligue 1 et en Division 1. Donc, ça me semblait totalement logique, et voire capital, d'avoir Salif Keita dans ce débat-là. Plus grand joueur que Michel Platini, que Kurkovic, que Rochecouteau, que toutes les légendes qui se sont succédées à Saint-Étienne. Pourquoi Salif Keita ? Il y a plein de raisons. Salif Keita, c'est une histoire, c'est un mythe, c'est une légende. Salif Keita, son histoire, elle démarre. Il arrive à Saint-Étienne parce qu'il y a un supporter des Verts qui est à Bamako, qui envoie des lettres à Roger Rocher. Donc, il n'y a pas de scout à l'époque. Ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic que tout le monde connaît. C'est un illustre inconnu, même s'il a atteint la finale de la Ligue des champions africaine. Mais c'est un illustre inconnu. Et c'est un supporter comme ça qui envoie des lettres au club. Et Roger Rocher, à un moment, il dit « Bon, bah allez, on va lui payer un billet d'avion. » Donc, il arrive. Il y a la fameuse anecdote du taxi. Alors déjà, pour arriver à Saint-Etienne, il se met dans le coffre d'une voiture au Mali parce que les Maliens ne veulent pas le voir partir. Donc, il prend l'avion au Liberia. Là, il se fait détrousser. Donc, il arrive en France sans le moindre sou. Donc, il n'a pas d'argent pour aller à Saint-Etienne. Là, le club a oublié de venir le chercher. Donc, il arrive à Saint-Etienne avec une note de 1 350 € de taxi. Voilà. Et ensuite, ce qui se passe c'est ensuite…
C'est des francs en plus. Hein.
Mais j'ai fait en francs constants. Voilà, parce que, excusez-moi d'avoir un petit peu bossé le sujet, les gars. Hein, parce que là, il n'y a pas que du sport derrière, il y a de l'économie. Et non, tout ça pour dire que… Non, pas des francs CFA, des euros. Tout ça pour dire que son premier match, il n'est pas qualifié. Donc, il joue contre une petite équipe en levée de rideau de l'équipe 1. L'équipe gagne 8-0. L'équipe réserve de Saint-Etienne, il marque 7 buts. Et là, il y a le flegmatique Robert Arbin. Robert Arbin qui ne faisait jamais un compliment. C'était le Sphinx qui dit « Ok, celui-ci, il nous le faut. » Salif Keita, c'est l'homme qui va, c'est le magicien. Voilà, c'est le danseur, le magicien, le dribbleur. C'est 40 ans avant Ronaldinho, si vous voulez, sauf que lui, il a fait gagner des titres à son équipe, 3 pour être exact. C'est un homme qui est capable de marquer 42 buts dans une saison. Aucun des joueurs qui vont être défendus ensuite n'ont marqué 42 buts dans une saison, par exemple. C'est un soulier d'argent, donc deuxième meilleur buteur européen. C'est 4 quadruplés cette année-là, c'est un sextuplé contre Sedan. Et puis, plus que les statistiques, parce que moi, les statistiques, bon, je ne suis pas grand fan de statistiques, sauf quand elles vont dans mon sens, en l'occurrence avec Salif Keita, elles vont dans mon sens, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'était un garçon qui avait quelque chose en plus. C'était un joueur unique. Albert Batteux, qui était l'entraîneur des Verts à l'époque. Albert Batteux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est légende sur le banc de touche avec Reims, avec Saint-Etienne. Il a gagné 8 titres de champion de France. Il a amené aussi les Bleus à la 3e place du Mondial 58. Enfin, Batteux, il en a vu. Et il avait eu cette phrase pour Salif Keïta qui dit un peu le potentiel du bonhomme. Il dit que s'il avait été d'une grande nation du jeu, il aurait été l'égal de Pelé. Voilà, c'était ça, Salif Keïta. C'était ouais, l'égal de Pelé. Et le problème, c'est qu'il était malien. Voilà, c'est le problème. Et une autre anecdote, en 71, il y a une sélection des meilleurs joueurs de l'OM et des meilleurs joueurs de Saint-Etienne qui affrontent le Santos de Pelé au Parc des Princes. 0-0. Et le lendemain, l'équipe titre, le FC Keïta éclipse le FC Pelé. Voilà, s'il y avait une comparaison à faire, c'était un dribbleur, c'était Garincha, c'était Pelé. Et le championnat de France a eu la chance d'avoir un joueur comme lui. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, Salif Keïta, et c'est dommage, parce que ce qu'on retient de la Saint-Etienne, c'est vrai que c'est la génération 76, c'est les poteaux carrés, etc. Mais tout le monde vous le dira, moi j'ai appelé beaucoup de personnes, notamment le conservateur du musée de Saint-Etienne.
Bah, tu n'étais pas sûr de tes arguments, quoi, en fait.
J'étais absolument
il a douté, visiblement.
Parce que je vais vous dire une chose, et je vais me confier à vous, et c'est l'instant émotion, mais dans le salon paternel, chez moi, il y a une photo de Kader Keïta, de Salif Keïta.
Voilà, et voilà, tout est dit.
Voilà, c'est dans la boîte.
De Salif Keïta avec mon père. Enfin, c'est une légende absolue. Tout le monde le considère comme le plus grand joueur de l'AS Saint-Etienne, tous ceux qui suivent ou ont suivi de près l'AS Saint-Etienne. Mais lui, il était d'une humilité absolue, absolue. Et pour vous prouver ça, je vous propose de l'écouter, en fait, parce que je l'ai appelé hier, Salif Keïta. Je lui ai demandé... Si lui, il se voyait comme le meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne, le problème, c'est que la connexion avec Bamako, elle n'est pas terrible du tout. En fait, je voulais l'inviter à ce podcast, pour être tout à fait franc. Mais c'est un vieux monsieur, 73 ans, Internet, c'est compliqué. Donc, je l'ai appelé. Et voilà ce qu'il me répond quand je lui demande s'il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1.
C'est très difficile de comparer des joueurs qui ont joué à des époques différentes. Ce que je peux dire, c'est que moi, je pense que Fouba, qui marque 44 buts dans une saison, c'était un gars qui était un avançant qui vient de qui était très adroit. Je voterai pour lui.
Et rassurez-moi, vous vous mettez quand même dans le top 10 ou sur le podium?
ça, je ne sais pas. En tout cas, je peux me mettre dans le top 10 quand même.
Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, parce qu'il y en a plein, je pense, qui n'ont pas bien entendu, en gros, il dit que pour lui, le plus grand, c'est Skoblar, parce que Skoblar, l'année des 42 buts, il en marque 44. Et cette humilité, c'est Batteux qui disait ça encore son entraîneur, cette humilité l'a empêché de faire partie vraiment des plus grands footballeurs de tous les temps, parce qu'il avait ce côté très humble, ce côté, il se cachait toujours derrière le collectif, et là, vous voyez, 73 ans, il dit encore que c'est Skoblar le meilleur, alors que de l'avis de tous, en tout cas de mon avis à moi, c'était Salif Keïta.
Alors moi, j'ai une petite question pour Martin, est-ce que ça pose pas problème qu'il n'incarne pas justement la meilleure génération des Verts et la génération la plus gagnante ou la plus mythique en tout cas des Verts à l'échelle du football français?
Non, parce que la meilleure équipe de Saint-Etienne, c'est 69-70, et en termes d'incarnation, je pense que tu peux pas faire mieux que Salif Keïta, parce que Saint-Etienne, le logo, l'emblème de Saint-Etienne, c'est une panthère noire, et la panthère, c'est Salif Keïta. Donc je pense qu'il y a qu'un joueur qui a un logo à son effigie, c'est Salif Keïta. Donc Alex, la panthère, Bafétim Bigomis, la panthère, tout ça, c'est en hommage à Salif Keïta. Donc, en termes d'incarnation, non. Après, ce qu'on retient, ce que le grand public retient, effectivement, c'est la génération 76. La génération 76. Parce qu'elle est en finale de la Ligue des Champions. Salif Keïta, en Coupe d'Europe, ils éliminent le grand Bayern Munich. Ils perdent 2-0 à Munich. Ils gagnent 3-0 à Geoffroy
Guichard. C'est pas encore le grand Bayern Munich, quand même.
C'est pas encore le grand Bayern Munich, mais lui, il marque. Et voilà, il y a quand même des faits d'armes avec la Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Donc, en termes de talent pur, en tout cas, en termes de joueurs qui représentent le football presque dans son état naturel, dans son état le plus simple, c'est difficile de trouver.
Moi, j'ai une autre petite question quand même. Moi, je suis très content du choix de Martin, honnêtement. Je suis d'accord avec lui, y compris sur l'incarnation du club. En revanche, quand tu dis que tout le monde considère que c'est le plus grand joueur, nous, on est sur les joueurs étrangers de la Ligue 1. Toi, tu dis carrément que c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, même devant Michel Platini.
Ligue 1, dans ce qu'ils ont fait en Ligue 1.
Voilà, c'était juste la précision que je voulais avoir. Parce que sinon,
sous le maillot de l'AS Saint-Etienne.
C'est ma mémé dans les orties quand même.
Sous le maillot de l'AS Saint-Etienne. Mais hier, hier, j'ai appelé des anciens journalistes aussi qui ont suivi les Verts pendant 40 ans, etc. Parce que voilà, moi, je ne l'ai pas vu jouer, Kader. Salif Keïta.
C'est quand même.
Ouais. Bah oui.
Il va falloir creuser sur ce petit lapsus.
Kader Keïta, on ne l'a pas vu beaucoup non plus. Hein.
Et simplement, tous me disaient que Michel Platini était un joueur plus complet. Rachid Mekloufi, peut-être aussi, était un joueur plus complet. Mais sous le maillot des Verts, celui qui laisse le plus de souvenirs, qui faisait le plus de différence, celui qui laisse l'image la plus forte, ça reste quand même Salif Keïta. Sous le maillot des Verts, évidemment.
Est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, je retourne un peu l'argument de Cyril, qui disait, est-ce que ce n'est pas gênant qu'il n'incarne pas l'équipe, sinon la meilleure, en tout cas la plus connue, la plus emblématique. Oui, ouais. On peut aussi retourner le truc, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'avoir été la première très très grande vedette de ce club quand même.
Ben, ça n'a pas été vraiment la première.
Il y a eu, ouais, non, il y a eu Mekloufi.
Il y a Mekloufi, ouais. il y a eu Mekloufi avant lui, ouais. Qui était quand même peut-être la. Enfin, il est sur le podium, Mekloufi. Il joue avec Robert Arbin aussi. Enfin, c'est quand même une équipe. Et puis, encore une fois, il arrive, il est personne. Encore une fois, on ne vient pas le chercher à l'aéroport. Il part dans le coffre d'une bagnole. Il joue son premier match avec l'équipe réserve en levée de rideau de l'équipe 1. C'est dire le chemin qu'il a parcouru, quoi. Et tout ça est allé très très vite parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Après, j'en ai pas parlé, mais il part à Marseille parce qu'il considère qu'il n'est pas assez bien payé. Son premier match avec l'OM, c'est face au Vert. Il met un doublé et il fait un doigt d'honneur à Roger Rocher. Mais tout ça, on lui en tient pas rigueur avec la Saint-Etienne parce qu'il a apporté tellement au Vert que voilà, il est pardonné.
Un autre étranger grand joueur du championnat de France, c'est Safet Susic. Laurent, tu as décidé de défendre l'élégant milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pourquoi ce choix?
J'ai envie de dire tout simplement parce que c'est peut-être le joueur étranger en Ligue 1 qui m'a fait le plus rêver. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas fan, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, donc c'est pas un choix de cœur par rapport à un club. En revanche, c'est un joueur, il y a des joueurs comme ça, on est tous supporters de clubs, et je pense qu'il y a des joueurs qui jouent dans des clubs rivaux parfois, dont on se dit, lui vraiment, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il joue pour mes couleurs, pour mon club. Susic, c'était un peu ça, je prenais un plaisir fou à chaque fois à le regarder jouer, et même quand il n'était pas bon, je prenais du plaisir à le regarder jouer. Susic, c'est un joueur qui a eu des très hauts et des très bas, et qui en ça est vraiment l'incarnation du Paris Saint-Germain des années 80, qui a eu des années remarquables et d'autres médiocres, pour rester gentil. Et lui, il était un peu le baromètre de ce club-là. Alors, il n'est pas arrivé au PSG dans des conditions aussi rocambolesques que Keïta à Saint-Etienne, mais c'est aussi le fruit d'une époque, Susic. C'est-à-dire qu'il arrive en France en 1982, après la Coupe du Monde. Il a déjà 27 ans. Ce sera d'ailleurs un de ses malheurs, à mon avis, c'est d'être arrivé 10 ans trop tôt. À tout point de vue. Et il n'aurait jamais dû jouer au PSG parce qu'il devait aller en Italie. Et il avait signé deux contrats, un à l'Inter, l'autre au Torino. Et voilà, il y a eu un imbroglio juridique. Lui, il pensait avoir juste donné en gros un accord de principe, sauf que c'était des vrais contrats. Donc, il a été suspendu par la fédération italienne. Et Francis Borrelli, qui adorait ce joueur, lui a mis le grappin dessus et l'a fait venir. Et très vite, c'est devenu l'idole du Parc des Princes. Je pense que c'est aujourd'hui encore un des joueurs les plus appréciés de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et j'ai dit que je n'étais pas supporter du PSG. J'ai beaucoup d'amis qui sont supporters du Paris Saint-Germain, qui savourent ce qu'ils vivent depuis une dizaine d'années avec l'RQSI, les titres à tour de bras, les stars, etc. Mais ceux qui ont connu le PSG des années 80, et notamment Susic, restent, je pense, d'une certaine manière un peu nostalgiques de cette époque, où un titre de champion de France, c'était un Graal, où une Coupe de France, c'était un Graal, et où on savait savourer ces moments-là, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un minimum syndical, et je pense que voilà, y a pas un supporter du PSG qui pleure de joie quand Paris est champion de France. Susic, il a offert son premier titre au Paris Saint-Germain. Alors, il n'était pas tout seul. Il y avait Fernandez, il y avait Rocheteau, il y avait Batz, il y avait beaucoup de très grands joueurs. Mais vraiment, il était le dépositaire du jeu et l'incarnation du jeu parisien, notamment à l'époque de Gérard Houllier. Puis voilà, c'était les feintes de corps, ce côté centre de gravité très bas. Il était beau à voir jouer. On avait l'impression qu'il allait toujours à deux à l'heure, mais il avait une vision du jeu absolument extraordinaire. C'était un passeur hors pair. Je pense que ça reste peut-être le meilleur passeur encore de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait un jour quand même un match à 5 passes décisives. C'était contre Bastia en 84, je crois, ce qui était quand même pas commun et qui reste pas commun même aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment un joueur absolument merveilleux. Il y a, malheureusement, je pense qu'il avait été élu, je crois, par France Football il y a quelques années, meilleur joueur de l'histoire du PSG et même meilleur joueur étranger de l'histoire de la Ligue 1. Alors, ça date un peu. Hein. C'était avant que Zlatan Ibrahimovic arrive. Pour moi, Ibrahimovic, d'autres que moi en parleront tout à l'heure, c'est sans doute la plus grande star de l'histoire de la Ligue 1. C'est peut-être le meilleur joueur intrinsèquement avec Ronaldinho, avec un ou deux autres, avec Jairzinho. Mais voilà.
C'est Keita aussi. T'as oublié Keita.
Kader Keita et Kader Keita. Mais ouais, c'était un joueur vraiment que j'adorais voir et que j'aime revoir des images même. Alors, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il est arrivé donc à 27 ans et il est parti en 91 au moment où Canal est arrivé. Donc, s'il était arrivé, s'il avait vécu 10 ans après, qu'il était arrivé au PSG en 92 et pas en 82, qu'il avait bénéficié des moyens dont a bénéficié le Paris Saint-Germain dans les années 90 et a fortiori aujourd'hui, je pense que ça aurait été plus que l'idole du Parc des Princes, mais une méga star internationale parce qu'il avait tout pour ça. Et voilà, c'est la petite pointe de regret qu'on peut avoir, mais pour moi, ça reste quand même vraiment un de mes joueurs préférés de tous les temps et tout club confond.
Est-ce que c'est pas le bémol du coup, Laurent ? Parce que justement, quand tu parles, là, on parle, le débat, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1, étranger de Ligue 1. Et il y a le palmarès qui compte aussi dans ce débat, évidemment.
Pour moi, pas tellement. Enfin, il y a le palmarès.
Est-ce qu'il a un titre de champion de France et une coupe de France dans ce
cas-là? Effectivement, il y a des joueurs qui ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de titres avec le Paris Saint-Germain que Safet Šušić. Mais va demander aux supporters parisiens combien, qui ont connu toutes les époques du PSG, combien ils mettent de joueurs, des joueurs qui ont peut-être été 4, 5, 6 fois champion de France avec Paris, s'ils le mettent devant un joueur comme Šušić ou un joueur comme Luis Fernandez, et puis on verra leur réponse. Donc pour moi, l'argument du palmarès, c'en est pas un. Où la question c'était qui est intrinsèquement le meilleur joueur étranger à avoir joué en France. Et dans ce cas-là, il y avait 2-3 réponses possibles. Il n'y en avait pas 15, ça c'est sûr. Ouais. Pour moi, il fallait déterminer, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai voulu choisir, un joueur emblématique. Voilà. Et pour moi, Šušić est un joueur emblématique de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Pour moi, Šušić, alors je vais flinguer un peu Salih Keita, mais Šušić et Keita, ils avaient un petit peu le même problème. Je crois, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Laurent, c'est que parfois, ils avaient un petit peu tendance à choisir leur match et qu'ils n'étaient pas d'une régularité sans faille.
Mais je suis d'accord avec ça. Et quand je disais qu'il était…
C'est des artistes.
L'incarnation, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça.
Il était l'incarnation du PSG qui était très irrégulier. Et oui, il était irrégulier, Šušić. Il était très irrégulier. Et c'est pour ça que je disais que même quand il n'était pas bon, je prenais plaisir à le voir. J'ai souvenir d'un match… C'était la finale de Coupe de France 85 entre Monaco et le PSG, que Paris perd 1-0. Et Šušić, ce soir-là, s'entête complètement. Il veut jouer tout seul, en gros. Et il fait vraiment un très mauvais match. Je pense que tous les entraîneurs du monde auraient été dingues. Mais même dans ce match-là, moi, je prends du plaisir à le regarder évoluer. Ses feintes de corps, ses dribbles, c'est un dribbleur extraordinaire. Et puis cette vista, quoi. Moi, j'ai connu 3 joueurs dans cette période-là, dans les années 80, qui avait une vision du jeu comme ça, c'était, on va dire 4. Il y avait Platini, Zico, Maradona et Šušić. Voilà. Pour moi, en termes de vision du jeu, d'intelligence de jeu et de qualité de passe, je mets Šušić dans ce domaine-là au même niveau que les 3 autres. Après, évidemment, dans la constance, dans la performance, ce n'était pas son point fort, ça c'est sûr. Mais ça faisait aussi partie de son charme.
C'est ce que dit Martin en plus, c'est souvent le cas des artistes qui aiment bien choisir aussi leur match et pour montrer leur talent, donc c'est pas choquant et c'est ce qu'il va faire après. Pour moi, un argument pour moi, évidemment, c'est la régularité qui compte aussi et vous allez voir pourquoi.
Il y a la fidélité à un club aussi.
Ouais, bon,
il a fait quand même quasiment 10 ans au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est sûr.
Là, je fais une petite
transition. Il y a quelqu'un là.
À notre ami Cyril, mais oui, voilà. Moi, mon critère principal, c'était quasiment l'incarnation sur la durée aussi. Un club, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant.
un autre qui symbolise son club. Voilà.
C'est Juninho. C'est pas Safet Soujic qui me fait une passe décisive, c'est Laurent Vergne. Parce que pour trouver un joueur qui symbolise le plus l'OL, le grand OL des années 2000, c'est impossible de trouver une autre personne que Juninho. L'avantage avec Juninho, c'est aussi qu'il rassemble beaucoup de choses. On a parlé beaucoup d'émotions jusqu'à présent, de petites histoires. Juninho, ça commence par une cassette VHS qui reste très longtemps sur le bureau de Bernard Lacombe, qui tarde un peu à la regarder. Au moment où il la regarde, ça se transforme en… c'est le jackpot total. Et moi, ce que j'aime avec Juninho, c'est qu'il remplit tout ce que j'aime chez un joueur, c'est-à-dire la régularité, on l'a dit. Il est resté de 2001 à 2009. Il n'a jamais fait défaut à ce club-là. Moi, j'ai grandi dans les années 2000. À l'époque, Lyon pouvait être mauvais, mais Juninho arrivait toujours pour sauver Lyon. Et les meilleurs joueurs, c'est ceux qui font gagner leurs équipes. Juninho, c'était exactement ça. Alors, il y a ses coups francs. On a tendance souvent à le résumer à ça parce que, évidemment, c'est peut-être le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de buts iconiques. Je me souviens notamment de son slalom face à Marseille où c'est, en termes de qualité, de vista, de dribble. Enfin, voilà, c'est au Brésil. Donc, on aime énormément. Il y a un palmarès, évidemment, XXL. Et c'est là aussi où il incarne le plus la Ligue 1 à mes yeux, ou en tout cas la Ligue 1 que moi je connais. C'est une trouvaille, Juninho. C'est-à-dire que quand ils vont le chercher, c'est pas un inconnu total, mais c'est quand même un pari pour le football européen et pour le football français. Et c'est un joueur qui a grandi avec le projet lyonnais et qui a fait grandir le projet lyonnais. J'ai un peu plus de mal à me reconnaître dans les Ibra, dans les Neymar, qui intrinsèquement sont peut-être les meilleurs joueurs à avoir évolué sur les pelouses de Ligue 1. Je pense que le débat se situe pas là, mais moi je trouve que Juninho, il incarne notre Ligue 1, c'est-à-dire aller trouver un joueur, tomber un joueur inconnu entre guillemets qui n'est pas en tout cas dans nos radars au début, et tomber complètement amoureux de lui, et derrière qui réussissent à faire grandir encore une fois le projet lyonnais. Et puis on parlait de talent, je pense que Juninho c'est aussi ça quand même, c'est le Brésil. C'est quand même un joueur qui a réussi à être élu meilleur joueur, pas uniquement en étant milieu offensif, mais aussi à avoir joué une saison complète en tant que sentinelle où il a été exceptionnel. Et voilà, c'est aussi un homme, il est droit, il est… Voilà, quand vous voyez comment Lyon l'a accueilli actuellement, l'année dernière au poste de directeur sportif, et comment certains supporters continuent à être relativement complaisants ou en tout cas indulgents envers Juninho, c'est ça aussi, c'est ces signes d'amour-là, ces signes de fidélité-là, et ça joue énormément au moment de déterminer qui est le joueur le plus marquant et le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Ligue 1. Pour moi, Juninho, il remplit.
Il y a un truc avec Juninho, moi aussi, que je trouve exceptionnel, parce que c'est un joueur incroyable, mais d'une humilité à toujours mettre les autres en avant. Mais,
comme celui dont va parler Glenn tout à l'heure.
Exactement. Allez, ça va dans mon sens.
Non, mais il a ce côté.
Depuis quand l'humilité fait partie de
bah, si, ça fait partie d'être un meilleur joueur. Mais tu t'attaches aux hommes aussi. Tu t'attaches aux hommes.
C'est une qualité, Glenn, il s'attend.
Oui.
Tu t'attaches aux hommes, mais pas
que. Oui, mais c'est pas ça qui fait que c'est le meilleur joueur de Ligue 1, meilleur étranger.
Oui, mais moi, ça participe à mon jugement, parce que là, on parle de jugement personnel.
Oui, bien sûr.
J'aurais tendance à plus à aimer quelqu'un de très gentil.
On a eu trop tendance à… On peut être très gentil et très exigeant. Juninho, c'est exactement ça.
C'était un leader.
C'était un leader monumental, et il pouvait faire la gueule pendant 3 jours après avoir perdu. Et c'était un champion, dans le terme qu'on peut entendre de champion, les gens qui aient la défaite et qui ne savent pas vivre par autre chose que la victoire. Mais il y a quand même ce côté collectif que d'autres n'ont pas.
Et je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait la série sur Lyon, on avait interrogé Grégory Coupet à propos de Juninho. Ouais. Il disait qu'il est arrivé sur la pointe des pieds et il a pris une ampleur dans le groupe, un leadership qui n'avait peut-être pas naturellement, qui s'est imposé par aussi son jeu et par ce qu'il montrait sur le terrain. Moi, ma seule petite réserve pour Juninho, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est qu'il manque peut-être une dimension à son jeu hors coup de pied arrêté. Il ne transportait pas Juninho, il ne transportait pas. Et puis il avait une tendance à parfois se laisser un tout petit peu tomber, à mettre une pression sur
la fin de carrière.
Qui m'agaçait.
Le retour du supporter.
Non, pas du tout, mais qui m'agaçait un petit peu. Mais c'est vrai que moi, c'est un joueur que c'est un joueur que je trouve assez fantastique. Mais il manque une petite dimension frisson.
C'est sûr que
moi, je reconnais qu'il.
Alors effectivement, c'est pas un artiste, mais en fait, c'est juste qu'il faisait parler ses pieds autrement. Mais quand tu regardes son art du coup franc, c'est quand même assez incroyable.
Mais c'est un peu unidimensionnel. Même s'il ne faut pas réduire Juninho à ses coups francs, c'est une caricature absolue. Malgré tout, dans ce qu'il fait de lui, qu'il est au-dessus de tout, il manque.
Moi, j'ai,
Même si
je suis assez d'accord avec toi. Et puis après, quand même, quand tu regardes la Coupe du Monde 2006, où quand même le Brésil a une armada où justement là, il n'y a que des joueurs qui vivent par le dribble, il finit par devenir titulaire parce que on comprend que c'est aussi un rouage. Et effectivement, c'est peut-être moins flashy qu'un Ronaldinho ou qu'un Adriano à l'époque, mais il sait faire d'autres choses que bien ces sûr. Joueurs-là. Il sait faire des choses que ces joueurs-là ne savent pas faire non plus, ou savent moins bien faire.
Moi, ce que je reconnais à Ronaldinho, c'est vraiment sa régularité. C'est-à-dire qu'il est là, il reste quoi, 9 ans à peu près à Lyon.
Et 2001-2009, ouais.
Et le nombre de titres, évidemment, ça c'est important. Mais c'est vrai qu'il me manque une petite dimension, même si pour moi, justement, j'avais ce côté frisson avec Ronaldinho sur ses coups francs. Parce que c'est la petite touche et il ne faut évidemment pas le réduire à ça. Mais ce petit truc en plus fait que ça reste un souvenir. Moi, je me rappelle de regarder les matchs de Lyon et attendre ce moment-là avec.
Ça devenait. Là, il est vraiment trop loin. Ça devenait presque un pari. C'est-à-dire qu'on se disait, mais là, c'est impossible de le mettre. Le coup franc contre Ajaccio, il est sur le rang central. À un moment, on se dit, c'est juste pas possible humainement. Et il arrive à envoyer cette ogive-là. Donc, ouais, en plus, il y a ce petit côté réussir à être systématiquement surpris par un joueur, c'est aussi une qualité propre très, très grand.
Moi, ce qui me plaît chez Juninho, c'est dans tout ce que tu as avancé comme argument, c'est le fait qu'il ait grandi en même temps que le club et le groupe au sein duquel il a évolué. Parce que Juninho, quand il arrive, il faut quand même se souvenir que ce n'est même pas le Juninho le plus connu. Juninho Star, c'est Juninho Paulista.
Paulista, oui.
Qui est vraiment. Pour les Brésiliens, il n'y avait vraiment pas photo entre les deux. Et d'ailleurs, Juninho aura quand même toujours du mal à avoir une vraie grande reconnaissance au Brésil parce que ce n'était pas une star dans son pays. Il est devenu une star en France. Mais tu parlais de la Coupe du Monde 2006, mais globalement, il a quand même eu du mal à s'imposer durablement en sélection. Et c'est vrai que pour nous, je pense que du point de vue franco-français, ça a été quelque chose parfois d'incompréhensible, mais parce que nous, on avait un regard que les Brésiliens n'avaient pas forcément sur. Mais ça, on l'a connu d'ailleurs avec beaucoup de très grands joueurs de l'histoire du championnat de France. Je pense à un Chris Waddle à Marseille.
Sonny Anderson aussi.
Ouais, il y en a eu beaucoup comme ça. Donc, le regard que nous, on peut avoir n'est pas forcément celui qu'ont les gens dans le pays d'origine du joueur. Mais ouais, Juninho, moi, c'est un joueur que…
Que ça n'en dit pas beaucoup sur notre championnat de France.
Ouais, peut-être, mais en tout cas, Juninho, moi, je connais même des supporters de l'AS Saint-Etienne qui avaient du respect pour lui et pour les Stéphanois et du respect pour un joueur lyonnais. Il faut quand même qu'il ait un petit truc. Et le joueur et l'homme doivent avoir un petit truc en plus quand même.
On est bon sur Juninho. Glenn, je sens qu'il trépigne de la patience pour évoquer son joueur, un certain Zlatan Ibrahimovic. Pour toi, c'est le plus grand joueur étranger de l'histoire de la Ligue 1.
Oui, et tout simplement. Alors évidemment, il n'a pas une belle histoire comme pour les trois choix de mes collègues. Lui, évidemment, quand il arrive, c'est une superstar. Évidemment, il est acheté parce que Paris a les moyens et s'offre à des moyens colossaux et se permet de pouvoir acheter un joueur de cette dimension. Mais ce qui est dingue avec Ibra, c'est qu'il reste 4 ans. Et pendant 4 ans, il a assumé à chaque match où il était sur le terrain ce statut de star planétaire. Justement, c'est ce qu'on disait. Lui avait ce statut de star planétaire. Et il l'a montré en Ligue 1. Je vous allais juste parce qu'on sait que les stats, ça compte pas toujours forcément. Mais Zlatan en Ligue 1, c'est 113 buts en 122 matchs. C'est juste colossal. Pour vous dire, donner une petite idée, son ratio de buts par match pour les joueurs qui ont marqué plus de 100 buts en Ligue 1, c'est lui qui a le plus haut ratio de l'histoire. Donc ça, c'est dingue. Et surtout, voilà, ce qui fait que Zlatan a été monstrueux, c'est qu'il a tout ravagé sur son passage. 4 ans. 4 titres de champion de France, 2 coupes de France, un quadruplé inédit jusqu'alors en France en 2015. Et ça, c'est grâce à lui. Je veux dire, à l'époque, pendant 4 ans, on ne parle que d'un joueur. Quand il est là, on parle de Zlatan, on parle d'Ibra. C'est pour ça que pour moi, c'est clairement le joueur étranger, joué de l'histoire, le meilleur joueur étranger de l'histoire de championnat. Parce qu'il a assumé un statut de star planétaire. Il a montré qu'en gros, c'était un joueur hors norme, un joueur surdimensionné pour cette Ligue 1. Et voilà, et tous les jours, à chaque match, il l'a illustré.
Moi, le problème, c'est le contexte. C'est qu'il est dans une équipe qui domine tout.
Oui, mais ça,
c'est… Ça joue.
Bien sûr. Là,
parce que Zlatan, moi, si je reviens sur mon exemple, Keïta, l'année de ses 42 buts, Saint-Etienne en marque 83. Donc, il marque quasiment la moitié des buts de son équipe. on n'est pas, et Saint-Étienne n'est même pas champion cette année-là. Saint-Étienne termine deuxième derrière Marseille. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait Paris et les autres, et moi, ça participe à cette Ligue 1 que j'aime moins, parce qu'il y a moins d'émotions, parce qu'on sait comment ça va se finir, parce que ça va se terminer par un carnage du PSG. Et Zlatan, il a commencé à incarner ça, parce que c'est devenu vraiment un carnage quand il est arrivé. Il n'y est pour rien, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas meilleur que les autres. Mais moi, personnellement, il incarne ça, il incarne le déséquilibre de cette Ligue 1 à deux vitesses. Et du coup, j'ai du mal à en faire le plus long de tout.
Je suis d'accord avec toi, mais justement, ça illustre aussi, tu vois, mon propos. Qui est champion de France juste avant son arrivée? Il arrive en 2012. C'est qui le champion de France?
Oui, c'est Montpellier.
Ouais, et quand il repart, c'est qui?
C'est Monaco. Ouais.
Voilà, ouais. Et donc, juste, enfin, ouais, ça monte.
On peut considérer quand même que globalement, le Paris Saint-Germain continue de dominer. Même oui. Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quand il part, bizarrement, c'est plus le PSG, oui, de champion de France. Donc, bien sûr, ça s'entend. J'entends votre propos.
C'était
ce que je
veux
dire.
Ouais, mais chose,
moi, ouais.
Mais peut-être, ouais, mais peut-être.
Ils ont le meilleur gardien, ils ont le meilleur défenseur, ils ont le meilleur milieu, ils ont le meilleur arrière droit. Enfin, c'est voilà. Moi, c'est la limite de.
Non, mais ça, je l'entends. Mais ça, il y peut rien. Je veux dire, bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous.
Bémol que je mettrais.
Alors moi, si j'en ai.
Tout à l'heure, tu parlais de bémol à propos de Susic en termes de palmarès. Moi, le bémol que je mettrais avec Ibrahimovic, tu mets en avant ses stats et son palmarès énorme en Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, tout ce que tu veux. Sauf que c'est pas pour ça qu'il était mieux à Ibrahimovic. Et c'est pas ce qu'on lui demandait. Ce qu'on lui demandait, c'était pas de permettre au Paris Saint-Germain d'être champion de France. Même si effectivement Montpellier a été champion l'année avant qu'il arrive, je pense, c'est facile de faire de l'uchronie, mais je crois pouvoir dire assez sereinement que même si Zlatan, si tu avais mis un autre attaquant d'envergure internationale à la place de Zlatan dans ces époques-là, le Paris Saint-Germain aurait quand même fini par gagner des titres. Ce qu'on lui demandait, c'était de faire franchir un cap au PSG sur la scène européenne. Et là-dessus, pour moi, il a complètement échoué, et c'est la limite de toute façon de Zlatan. Tout au long de sa carrière, il n'a rien gagné de vraiment important dans l'histoire du football, que ce soit en club,
ça,
évidemment,
ça, c'est
moins de sa faute. Pour moi, il est là le vrai bémol de
Ça, je te rejoins totalement, mais le problème, c'est que là, on parle de la Ligue 1, et dans ce cas-là, il n'y a quand même pas beaucoup de, même de nos joueurs en général, qui malheureusement
oui, se sont illustrés. Oui, mais tu parles de joueurs qui ont joué en Ligue 1, mais on ne compte pas que leur performance en Ligue 1. Évidemment que un joueur, il est aussi marqué par son passage dans un club pour ce qu'il fait en Coupe d'Europe. Enfin, ça me paraît
évident. Je suis d'accord. Moi, si vraiment je l'ai retenu, c'est plus pour évidemment. Je te rejoins totalement sur ce gros manque dans la carrière du PSG, dans le passage du PSG au PSG de Zlatan. Après, pour moi, ce qui reste vraiment, c'est cette impression de domination sur tout le reste de la Ligue 1.
Bien sûr, on est d'accord, il est hors norme, mais je pense que trois autres joueurs ont fait passer un cap à leur club là où on les attendait. Et ce n'est pas le cas de Zlatan pour moi.
Ça, je te rejoins.
Moi, je pense que Zlatan, il a quand même permis au Paris Saint-Germain de grandir à vitesse grand V, parce que c'est le genre de joueur qui fixe un niveau d'exigence au quotidien très très important, comme Thiago Silva, comme Maxwell avant, comme Thiago Motta. Moi, j'ai un vrai problème avec Zlatan. Il y a effectivement cet aspect fidélité, il n'est resté que 4 ans. Et il y a ce personnage qu'on adore détester, et j'adore le personnage Zlatan, mais cette espèce d'impression de prendre la France de haut et la France du football de haut, je trouve que c'est impossible de nouer des émotions avec lui. Et on parle de sport, on parle de foot. Bien sûr, si vous demandez aux supporters du Paris Saint-Germain, ils vous diront peut-être que Zlatan est le plus grand joueur qui soit passé au Paris Saint-Germain, encore que. Mais est-ce que c'est leur préféré? Sûrement pas. Et moi, il y a vraiment le… Oui, voilà. Mais moi, ça me dérange sur… j'ai jamais entendu parler français. C'est très bête, mais je pense que ça participe à ça. Et même des gens qui parlaient mal français, je fais une analogie tennis avec Guga, au moment où il fait son cœur quand il gagne Roland-Garros, peut-être que Guga n'est pas le plus grand champion qui ait gagné Roland-Garros en tennis. En revanche, c'est un des plus marquants parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une trame narrative et ça fait partie du sport. Pour moi, Zlatan, il l'a réduit à néant par son caractère et par sa volonté d'être systématiquement dans la provocation.
Ça rejoint, mais poser le débat,
c'est le plus grand joueur étranger de la Ligue 1, bah non.
Sauf qu'on a appartenu le joueur le plus sympathique ou le joueur que les supporters aimaient le plus.
Non,
là, ce qu'on veut, c'est le plus grand joueur. Et on regarde en performance. Pour moi, quand on parle le plus grand, c'est de la performance sportive, notamment en premier plan. Et Zlatus, Zlatan, il a répondu présent. Je suis entièrement d'accord, c'est toutes ces petites phrases. Mais quand il part, il dit que la Ligue 1 n'est pas au niveau de son talent. Évidemment, ce côté mégalo, grosse tête, et malheureusement, joue aussi un peu en sa défaveur. C'est pour ça qu'il ne restera pas, en effet, peut-être dans le cœur de beaucoup de supporters parisiens. Mais ce n'est pas juste ça que j'ai envie de retenir de Zlatan. Moi, c'est cette impression vraiment de... Ben ouais, il est surdimensionné pour cette Ligue 1 et c'était vrai, c'était le cas. Et voilà, c'est ce que je retiens. C'est pour ça que c'est le
coup,
plus grand.
Du coup, c'est la limite majeure. C'est la limite majeure, c'est-à-dire qu'il est trop gros pour notre Ligue 1. Donc, est-ce que ça peut être le plus grand joueur passé par la Ligue 1 alors qu'il, entre guillemets, n'accepte pas les critères du championnat? C'est,
oui, je sais
pas,
moi, ça me, moi,
philosophiquement, ça me dérange.
Mais philosophiquement, je suis d'accord. Mais
la
pour
démonstration
moi,
de Glenn, la démonstration de Glenn, elle dit tout parce qu'elle se base beaucoup sur les stats, le palmarès, etc. Ouais.
Mais c'est ce qui compte, Martin, à la fin.
Objectivement. Oui, mais alors, dans ce cas-là, je te dirais quand même que c'est ce qui compte. C'est 172 buts en 180 matchs. Donc, tu vois, il n'est pas très loin.
Hein, oui, il est resté un peu plus
long. Non, pas très loin. Mais bref, non, mais simplement juste pour finir, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'objectivement, Zlatan, sur ce qu'on retient sur une fiche Wikipédia, c'est peut-être lui le plus grand, peut-être.
Ce sera peut-être Neymar dans quelques années, si Neymar arrive à faire fi de ses blessures.
On en est loin. Mais il manque un peu d'affection, il manque une petite histoire, il manque un petit truc.
Vous êtes trop sentimental.
Non, moi, le côté mégalo de Zlatan ne me dérange pas du tout. Il assume ce qu'il est. On l'aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime les gens qui sont entiers, qui sont comme ils sont, qui ne cherchent pas à jouer un rôle. Donc son côté mégalo ne me dérange pas du tout. En revanche, Glenn, quand tu dis, il part et il dit en gros je suis trop grand pour la Ligue 1, ben, moi je trouve que ça rejoint le bémol que je mettais, c'est-à-dire que oui, il était trop grand pour la Ligue 1, Zlatan.
Il ne dit pas le PSG était trop grand pour la Ligue 1.
C'est bien la preuve que ce qu'on lui demandait, c'était pas de permettre au PSG d'être champion avec 15 points d'avance tous les ans.
C'était
pas ça. Et de l'époque Zlatan, en Ligue des Champions, sur la scène européenne, le grand moment du PSG, c'est à Chelsea, le 8e de finale
retour. Pas là.
Et comme par hasard, il n'est pas là. Il pense que c'est sévère, c'est tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est très symptomatique. Le grand moment européen du PSG, et même peut-être, en tout cas de la période Zlatan, c'est un match où finalement, il abandonne ses coéquipiers.
Je suis entièrement d'accord. Mais je rejoins Cyril sur ce que disait tout à l'heure. Non, totalement. Ben non, parce qu'on parle de la Ligue 1 et là, on prend un argument qui est en Ligue des Champions. Donc pour moi, le cœur du débat, c'est qui est le meilleur joueur du championnat de France.
Non, mais c'est pas le joueur à avoir fait les meilleures performances.
Et là, c'est le meilleur joueur du championnat de France.
C'est le meilleur joueur à avoir évolué dans un club de Ligue 1. Sinon, alors
non, parce que non, c'est pas vrai. Parce que
dans la Coupe de France, non plus.
Messieurs,
on est
d'accord.
Sûr.
J'ai l'impression que chacun a ses arguments et effectivement les critères diffèrent d'un joueur à l'autre. Et voilà. Merci d'avoir participé à ce podcast.
Et juste Adrien, il y avait une cinquième personne qui voulait défendre Vampeta, non ? Non, il n'y avait personne.
Maxime Dupuis, je crois.
Ah oui, Maxime Dupuis, il voulait défendre Vampeta.
Malheureusement, il a dû s'excuser, il n'a pas pu.
C'était Mitroglou, Maxime, non ? On en avait parlé.
Personne n'a cité, peut-être parce qu'il n'est pas resté assez longtemps, mais Didier Drogba.
Il y en avait beaucoup d'autres, hein. Rai, Georges Weah.
Il fait une saison exceptionnelle à Marseille.
Cavani aussi.
Jürgen Klinsmann, Borut Chagas.
Intrinsèquement, il y avait peut-être un Rony, mais s'il avait.
Il y a eu quelques bons joueurs quand même.
Ça mériterait de faire un top 10 un jour.
Ça mériterait. Eden Hazard.
Eden Hazard, ouais.
Bon, merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser des commentaires sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Je le disais au début, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
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 Salut. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.